nzamba
nzambira samirana
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes mercredi 16 décembre 2020. Vous suivez la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal. D'abord les titres. 11 personnes tuées, 4 autres grièvement blessées, rien que les deux premières semaines du mois de décembre. Une statistique macabre réalisée par la radio Nzamba Agathe Kakawe. Une situation qui s'explique par l'impunité qui prévaut au Burundi, comme l'explique dans ce journal un expert du droit. Et puis, Valentin Bagolikunda est le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Une nomination qui serait un gage de remerciement pour la répression qu'il a menée contre la société civile en 2015. Vous suivrez l'analyse d'un défenseur des droits de l'homme, témoin et victime de cette répression. Les prisons de Mimba et Moulinvia se distinguent par la torture qu'elles infligent aux détenus politiques. Le constat est de l'organisation ACAT dans son rapport mensuel de novembre. Théodomir Manilambona est aux manettes. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Mais tout d'abord, cette triste brève. 3 personnes sont mortes sur le champ, 4 autres ont été grièvement blessées. C'est le triste bilan d'un accident de circulation causé par un véhicule de la police nationale. C'était ce mercredi sur la colline Rurenda de la commune Rutegama, en province Muramvya. Selon des témoins, de tels accidents sont fréquents dans cette localité. Ils pointent du doigt des chauffeurs des véhicules de la police qui conduisent les véhicules à tombeau ouvert. Ces derniers auraient cette habitude de rouler à grande vitesse, même quand ils ne transportent pas les autorités politiques. La première moitié de ce mois de décembre a été fortement marquée par des cas de criminalité dans différents coins du pays. Au total, 11 personnes tuées et 4 grièvement blessées. Et là, il s'agit juste des cas qui ont été répertoriés par la rédaction de la radio Nzamba Agathe Kakawe. Plus de détails avec Bonfils Niongere.
Ce phénomène de criminalité a été fortement remarqué dans la province Cibitoke, nous sommes au nord-ouest du pays. Tout au début de ce mois de décembre, en date du 3 et 4, 2 personnes ont été tuées à coups de machette, tête décapitée dans la zone Butahana de la commune Mabayi. Dans la même province de Cibitoke, en commune Buganda, le 9 décembre, 2 personnes ont été tuées, une par machette et une autre par jet de grenade, dans le périmètre de l'Ekofobumbiri de la zone Gasenyi. Pendant la nuit du 12 au 13 décembre, dans la commune Mugina, un couple a échappé à la mort, mais grièvement blessé par machette. Les pratiques obscurantistes et le phénomène de vouloir se faire justice seraient derrière tous ces cas de criminalité répertoriés dans la province de Cibitoke. Or, de Cibitoke, dimanche dernier, sur la colline Chabara de la zone Kigwena, commune et province Rumonge, nous sommes au sud-ouest du pays, un jeune homme de 16 ans a été tué par coup de poignard d'un autre jeune de 18 ans. Les motifs de ce crime restent toujours inconnus. Toujours au sud du pays, 2 jeunes gens sont gardés dans les cachots de la police à Matana pour avoir battu à mort un habitant de la zone Gassibé en commune Matana de province Bururi. À Bujumbura, 2 personnes ont été tuées par balle. L'une a été fusillée par des éléments de police au bord du lac Tanganyika. Il appartiendrait au groupe de fraudeurs de pagne en provenance de la République démocratique du Congo. L'autre étant Donatien Hundwa Nabake, sentinelle au quartier 1 de la zone Ngagara. Il a été fusillé par des hommes armés d'un fusil de type pistolet qui n'ont pas encore été identifiés. Une jeune fille, prénommée Francine, a été blessée par coup de poignard à Buyenzi la nuit de dimanche dernier. Dans la commune de Kanyosha de la province de Bujumbura, un corps sans vie d'une jeune fille a été découvert dans la localité de Buyuki sur la chaîne de montagne Mboza, dans les proximités de Buhonga. Des sources à Buhonga indiquent qu'elle aurait été tuée par étranglement. À Gitega, au centre du pays, un conducteur de taxi moto a été tué, des pièces d'identité volées par des criminels, mais sa moto est restée sur les lieux du crime. Le jeune homme, du nom de Jean de Diegiteka de la commune Kiganda en province Muramvya, a été tué par l'explosion d'une grenade qu'il était en train de tripoter, font savoir les sources à Kiganda. Dans la province Bubanza, un corps sans vie a été retrouvé sur le lit de la rivière Manda. La victime n'a pas encore été identifiée.
Bonfils Niongere. Suite à cette recrudescence de la criminalité au Burundi, le FOCODE, le Forum pour la conscience et le développement, indique que c'est la conséquence de l'impunité qui a gagné du terrain. C'est Maître Janvier Bigilimana qui le dit. Il est le secrétaire général du FOCODE. Suivez-le.
Les auteurs des crimes qui, une fois, ils sont impliqués dans la procédure pénale face aux violations qu'ils ont commises, ils essaient de faire parvenir à l'oreille du juge ou du magistrat qu'ils sont proches ou qu'ils appartiennent soit à la milice Imbonerakure, soit au parti CNDD-FDD, et cela suffit pour leur garantir une sorte d'impunité. Et nous avons un régime en place qui a érigé la terreur et la violence comme mode de gouvernance. Cela ne pourrait pas étonner parce que depuis que le régime de CNDD-FDD est au pouvoir, nous observons une violence inouïe à l'endroit des opposants et à l'endroit d'autres personnes qui est supposée ne pas soutenir l'action de ce régime. Nous pensons que la solution la meilleure serait que le chef de l'État, qui est l'autorité publique suprême du pays, devrait sortir de son silence pour soutenir l'action de la justice, et notamment en adressant un message clair à l'endroit des membres du CNDD-FDD et de la milice Imbonerakure, comme quoi ils devraient cesser ce genre de crimes qui sont commis impunément à l'endroit de la population. Mais nous sommes très pessimistes que ce message ne va pas avoir lieu, justement parce que, comme on venait de le préciser, ce régime a choisi d'ériger la terreur et la violence en mode de gouvernance, ce qui assure une certaine impunité à l'endroit des auteurs des crimes et une perpétration continue de violence à l'endroit des citoyens qui sont innocemment massacrés et sans que la justice puisse les laisser courir.
Je vous le disais dans les titres, le Sénat a approuvé ce mercredi les membres de la Cour constitutionnelle. Valentin Bagolikunda, ancien procureur général de la République, en est le nouveau président. Narumvuki Emmanuel est le vice-président. Burundis Aliboua, Rabonimana Jeanne et Nibazonghiza Salvatore sont, quant à eux, membres permanents. Bayaha Gabed et Amani Jean-Pierre sont membres non permanents de la nouvelle équipe de la Cour constitutionnelle. Et la nomination de Valentin Bagolikunda au poste de président de la Cour constitutionnelle est une façon de le remercier pour avoir réprimé des membres de la société civile, une répression sans merci pendant la résistance contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. C'est l'analyse de Vital Nshimirimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, qui dit ne pas être étonné de cette nomination. Vital Nshimirimana.
Pas surprise que des personnes comme Valentin Bagolikunda, Emmanuel Narumbukiye soit nommé à la Cour constitutionnelle, parce que ce sont des gens qui sont des militants de première heure du régime du CNDD-FDD. Ce sont des gens qui se sont illustrés dans la défense des intérêts du système. Ce sont des gens qui ont tout fait pour favoriser la commission des crimes, qui n'ont rien fait pour protéger les victimes de la répression en cours, mais qui davantage se sont associés aux criminels. Nous repérons Valentin Bagolikunda dans plusieurs actes, comme la répression dirigée à l'endroit de plusieurs responsables des médias, des défenses des droits de l'homme et des membres des corps de défense et de sécurité qui ont été prétendument collés l'étiquette de putschistes. Et nous connaissons cette même personne comme celle qui a combattu la Cour pénale internationale lorsque celle-ci entreprenait une enquête sur les violations massives commises au Burundi depuis 2015. Et nous savons que ce sont de tels profils qui sont les mieux payés, les mieux appréciés par le régime du CNDD-FDD.
La sous-représentation des femmes dans les postes de responsabilité, l'un des types de violences basées sur le genre. La femme burundaise est le pilier de la famille, mais elle n'est pas souvent associée dans les gestions des affaires du pays. C'est une évidence, les femmes et les filles burundaises sont sous-représentées aux postes de responsabilité, surtout dans les sphères de prise de décision. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation de 2000 a établi le mode de distribution des postes et a accordé 30% aux femmes. Déjà, ce quota de 30% n'a jamais été appliqué dans les nombreux secteurs. Pire, le peu de place accordée aux femmes a sensiblement diminué. Même lorsqu'une femme quitte son poste, elle est souvent remplacée par un homme. Le gouvernement burundais devrait donc accorder suffisamment de place aux femmes dans les postes de responsabilité, comme le stipulent les lois nationales et internationales.
Ceci est un message de la radio Inzamba Agateka Kawe, en partenariat avec le mouvement de femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle.
La suite de cette édition avec la ville de Kayanza où des habitants sont aujourd'hui pris de panique. C'est depuis que des tests médicaux qu'a subi ce mardi un homme ont montré qu'il porte le virus de Corona-19. Selon des informations émanant des voisins de cet homme domicilié dans une localité dénommée Kuihangali au centre-ville de Kayanza, il y a quelque temps qu'il est rentré du Kenya. Parfait Mouda Sigana.
Cette personne testée au Covid-19 revenait d'un voyage au cours duquel il exerçait le rôle de convoyeur. Mais à son arrivée sur la frontière de Kobiro, l'homme est rentré directement à la maison sans être placé en quarantaine par les services habilités comme l'exige le règlement. Et surprise, quand il a été conduit à l'hôpital ce mardi, il a été constaté qu'il portait le virus, ce qui a plongé ses proches dans une peur panique. Il s'inquiète d'avoir été contaminé. Ce cas fait penser à certains que la police sur les frontières, par où transitent ces voyageurs, reçoivent des pots de vin pour les laisser poursuivre leur voyage sans passer par la mise en quarantaine. Ces faits coïncident avec un grand relâchement qui s'observe aujourd'hui au sein de la population de la ville de Kayanza et dans d'autres localités qui n'observent plus le respect des mesures barrières. Nos informations dans cette province Kayanza précisent que dans de nombreuses places, les dispositifs de lavage de mains par les personnes qui vont fréquenter les lieux de grands rassemblements existent, mais parfois il n'y a pas d'eau. Selon toujours nos sources dans cette province, la distanciation sociale ne se fait nulle part dans les lieux comme les écoles, les lieux de culte, les véhicules de transport en commun, tout comme dans les marchés. Aussi, les gens se saluent encore en se serrant les mains et en s'embrassant. Signalons que depuis que la maladie a été déclarée au Burundi, l'hôpital de Kayanza avait déjà jusque-là confiné 2 cas de personnes atteintes du virus il y a environ 2 mois.
Parfait Mouda Sigana. Saisi d'un sac contenant des médicaments au domicile d'un commerçant, cela s'est passé mardi sur la colline d'Itwenzi de la commune Nega en province Kirundo. Les médicaments saisis sont normalement offerts gratuitement aux malades dans les structures de santé. Les habitants de Nega demandent donc que les auteurs de cette fraude soient tous identifiés et punis. Francine Kanyangé.
La personne dont la maison a été perquisitionnée est un vendeur en alimentation. Des policiers avaient encerclé son domicile dès 5h du matin avant de procéder à une perquisition selon ce témoignage.
Lors de la perquisition, la police a découvert un sac contenant plusieurs sortes de comprimés, fansida, quinine, tous les médicaments qu'on donne gratuitement aux patients dans les structures de santé.
Les habitants de Gitwenzi souhaiteraient que toutes les personnes impliquées dans cette vente illégale de médicaments destinés à la population soient arrêtées.
Nous réclamons une enquête pour identifier ceux qui vendent à des commerçants des médicaments qui ne sont pas destinés à être vendus.
Nous n'avons pas pu joindre par téléphone le commissaire provincial de la police à Kirundo. Contacté à ce sujet, l'administrateur de Nega a indiqué qu'il n'était pas au courant de cette affaire.
Merci Francine Kanyangi. Les traitements inhumains et dégradants dont sont victimes les détenus dans les prisons constituent de fait des actes de torture. Ces traitements sont principalement constatés dans les prisons de Mimba et Mulanvia. Selon le rapport mensuel de novembre d'Akat Burundi, la torture est particulièrement infligée aux détenus poursuivis pour des crimes à caractère politique. Maître Niwashira Kandi Jean-Claude, chargé du département juridique à l'Akat Burundi, parle aussi de la problématique d'accès aux soins de santé des détenus. On l'écoute.
En ce qui concerne les traitements inhumains et dégradants, nous avons remarqué la récurrence du phénomène. Les auteurs sont les prisonniers fidèles au parti présidentiel qui opère sous les ordres de la direction. Bon, ils sont nommés par la direction de la prison pour faire partie du comité de sécurité. Celui qui est responsable de ce comité à la prison de Mimba, il est nommé Prosper Minani. C'est lui le responsable de ce groupe de tortionnaires. Au cours de son mois, un autre phénomène qui consiste à faire sortir de la prison des détenus et les mettre à l'extérieur de la prison pour subir des actes de torture a été constaté. Les cas identifiés sont ceux de Salima Anaïmenejige, de son épouse de la prison de Mimba, puis Ella Isaac et Jean-Claude Ilan Bonat de la prison de Mulanvia. En ce qui concerne la santé des détenus, il a été constaté que l'accès aux soins de santé reste problématique dans certains des établissements pénitentiaires comme la prison de Gitega, où il n'est plus autorisé aux détenus de sortir pour subir des soins à l'extérieur de la prison. Et cela du fait qu'un détenu qui a évadé à cette prison depuis du mois d'octobre. Les autres détenus en subissent donc les conséquences, alors que la nature des soins dont ils ont besoin ne sont pas disponibles dans la dispensaire de la prison. Un nouveau phénomène consistant à transférer aussi les détenus en pleine nuit a été constaté ce mois concerné par le présent rapport. L'exemple est celui d'un certain Seyman Emmanuel, ancien directeur de la Radio Publique Africaine, et qui a par la suite recruté par le Service National de Renseignement, a été conduit en prison de Rutana dans la nuit du 11 novembre 2020. À la CAP Burundi, nous avons demandé surtout au gouvernement du Burundi, en particulier le ministère de la Justice qui a en charge dans ses attributions la gestion des prisons, d'arrêter et de traduire en justice les auteurs des violations des droits de l'homme en général et ceux des détenus en particulier, et de traiter sur un pied d'égalité tous les prisonniers. Et nous avons également demandé de respecter les droits reconnus par les textes nationaux et internationaux de protection des détenus et surtout le droit à la santé qui est souvent violé et provoquant ainsi l'irréparable.
Il s'agit de Maître Niburu Monsi Jean-Claude et non Maître Niwashira Kandi. Nous terminons par 400 journalistes qui sont en prison dans le monde, dont 59 en Afrique, parmi lesquels les 4 reporters du journal Iwachu. Dans un rapport publié lundi dernier, l'organisation Reporters sans frontières indique que cela est devenu un moyen des États de priver la liberté d'expression à leur peuple. Arnaud Froger, directeur de RSF Afrique, se dit inquiet de cette situation qui ne rassure pas sur la sécurité des journalistes. Il appelle les États au respect du métier, le journalisme n'ayant jamais été un crime. Arnaud Froger, directeur Afrique de RSF.
C'est un niveau qui reste particulièrement alarmant et qui révèle que les arrestations arbitraires de journalistes pour des faits commis dans l'exercice de leur fonction, qui ne justifient aucunement des peines privatives de liberté ou des mesures privatives de liberté, eh bien restent une méthode privilégiée pour empêcher les journalistes de travailler et pour empêcher les informations aussi de circuler. Motifs et les schémas que l'on retrouve sont à peu près les mêmes partout dans le monde et l'Afrique ne fait pas exception. Il est absolument urgent de changer les législations locales et de les mettre en conformité avec le droit international. Le journalisme n'est pas un crime et il est absolument anormal qu'à l'aube de cette nouvelle année et après des années de campagne, des États se permettent encore de priver les journalistes de liberté pour des faits commis dans l'exercice de leur fonction. C'est tout à fait contraire au droit international, c'est tout à fait aux conventions régionales et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. D'ailleurs, pour ce qui concerne l'Afrique, un journaliste ne devrait pas se retrouver en prison pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Et le meilleur moyen d'éviter cela, de mettre fin aux peines privatives de liberté dans les législations locales pour les mettre en conformité avec le droit international, de manière à ce que toute mesure privative de liberté qui serait décidée arbitrairement se heurte au droit et ne puisse pas être autorisée par les justices des différents pays. Trop de pays maintiennent encore dans leur droit la possibilité d'emprisonner des journalistes, et c'est absolument scandaleux que cet état de fait soit encore présent.
C'est la fin de cette édition. Merci à Théodomir Manilambona pour sa partition technique, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakaoué pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Portez-vous bien.